VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Conakry, 18h à Abuja et à Maïdougouri. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Bienvenue dans notre journal. Dans l'actualité africaine, premier résultat partiel de l'élection présidentielle au Nigeria. Le président sortant, Goodluck Jonathan, et son adversaire, Muhammadu Buhari, sont donnés très proches dans 8 des 36 États que compte la fédération et dans la capitale Abuja. Selon les premiers résultats transmis en direct à la télévision depuis Abuja cet après-midi par les délégués de la Commission électorale nationale indépendante, l'INEC. Monsieur Buhari est pour l'instant donné vainqueur dans 5 États, Monsieur Jonathan remportant le scrutin dans les 3 autres États et dans la capitale fédérale. Goodluck Jonathan bénéficie cependant d'une légère avance de moins de 20 000 voix en nombre de suffrages exprimés. Au Nigeria, le vainqueur de l'élection présidentielle doit obtenir, outre le plus grand nombre de suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2/3 des 36 États de la fédération auxquels s'ajoute le territoire de la capitale fédérale Abuja. Cette règle a été instaurée afin de s'assurer que tous les présidents élus bénéficient d'un certain soutien au niveau national dans un pays aux nombreuses fractures ethniques et religieuses. Des élections qui se sont passées plutôt calmement, même et au déroulement plutôt globalement satisfaisant, mais sur laquelle planent des menaces d'interférences politiques délibérées selon les États-Unis et la Grande-Bretagne. Plus d'explications avec Jacques Aristide.
Un bras de fer qui tient le Nigeria et la planète en haleine. Le président sortant, Goodluck Jonathan, et son rival de l'opposition, Muhammadu Buhari, se sont battus jusqu'au bout. Une présidentielle considérée comme étant la plus serrée depuis la fin des dictatures militaires en 1999. Dans un communiqué, l'Union africaine a appelé à recourir aux moyens légaux existants au cas où il y aurait contestation des résultats des scrutins législatifs et présidentiels qui ont, d'après elle, respecté les principes continentaux des élections démocratiques. Depuis l'Europe, le secrétaire d'État américain John Kerry et le secrétaire au Foreign Office britannique Philip Hammond ont estimé qu'il n'y a pas eu pour le moment de manipulation systématique du processus électoral au Nigeria, mais font état d'indications inquiétantes que le processus de rassemblement des votes pour être compté peut être sujet à des interférences politiques délibérées. Réplique très rapide d'Abuja, comme le rapporte l'AFP. Pour la Commission électorale indépendante du Nigeria, ce sont des craintes sans fondement et il n'y a aucune preuve d'interférence politique.
Au Burundi, un glissement de terrain à Runtunga a fait au moins 10 disparus. Les équipes de la Croix-Rouge sont sur place. On écoute Anselme Katiyung-Gurunza, le secrétaire général de la Croix-Rouge burundaise.
La rivière de Runtunga a complètement dévié de son lit et a pris sur tout son passage de grosses pierres. Et voilà, ces pierres ont bousculé toutes les maisons qui étaient sur le passage quand elles descendaient vers de là. Nous avons 10 personnes disparues parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé les corps. On a 3 écoles complètement détruites de 14 salles. Il y a une église également qui s'est complètement effondrée. Un centre de santé complètement détruit et la route qui mène de Rumonge vers Bujumbura est coupée sur une distance de 5 km.
Anselme Katiyung-Gurunza de la Croix-Rouge burundaise, joint par Nicolas Pinault. En Guinée, l'opposition a annoncé qu'elle allait organiser une journée ville morte jeudi prochain à Conakry pour contester le calendrier des prochaines élections, tout en posant des conditions préalables à un dialogue avec l'administration du président Alpha Condé. Et toujours en Guinée, nouvelles mesures drastiques dans la lutte continue contre le virus Ebola. Les autorités de Conakry viennent en effet d'instaurer une urgence sanitaire renforcée de 45 jours dans 5 préfectures du sud-ouest et de l'ouest du pays en raison d'une recrudescence de cas dans ces zones. Le point sur la situation avec le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama.
On est confronté à certaines difficultés, difficultés relatives au respect de certaines mesures édictées par nos services. Je dis au départ, l'épidémie était concentrée au niveau de la région forestière. Mais grâce à la sensibilisation, à l'implication de la communauté, aujourd'hui en région forestière, nous ne recevons plus de cas il y a plus d'un mois. Ça veut dire que c'est une question, je me dis, peut-être, de déni de la maladie au niveau de la région côtière. Et c'est pourquoi M. le président Flick, conscient de ce défi, a pris de nouvelles mesures afin de contrer ces communautés à respecter ces mesures d'hygiène. Il est maintenant interdit de transfert de corps d'un endroit à un autre, j'allais dire, les contacts vont désormais rester sur place pendant les 21 jours. Et toute personne qui s'évertuerait à cacher un malade répondrait devant la loi, devant la justice. Donc ce sont des mesures renforcées afin que nous sortions rapidement de cette situation de crise sanitaire.
Docteur Rémi Lama, le ministre guinéen de la Santé. Le président Barack Obama se rendra en juillet au Kenya, la terre natale de son père, pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009. Barack Obama participera au sommet mondial de l'entrepreneuriat et rencontrera en particulier son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat. Il s'agira du 4e voyage en Afrique subsaharienne de Barack Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, les pourparlers sur le nucléaire iranien se poursuivent à Lausanne, en Suisse, à 24 heures de la date butoir pour la conclusion d'un accord cadre. Un diplomate occidental dit que trois questions majeures restent en suspens. Michel Joseph.
Selon ce diplomate, l'Iran et les puissances mondiales du P5+1 ne se sont pas toujours entendus sur la durée d'un éventuel accord, le rythme de la levée des sanctions économiques contre Téhéran et comment les imposer de nouveau en cas de violation des termes de l'accord par l'Iran. Il y a urgence, a-t-il également souligné, ajoutant qu'il ne reste plus qu'à dire oui ou non à des heures maintenant de la date butoir. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues américains, britanniques, chinois, français, russes et allemands. L'objectif est d'arriver dans les prochaines 24 heures à un accord cadre qui garantirait la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions draconiennes. Une version finale d'un tel accord est attendue vers la fin de juin 2015.
La violence continue au Yémen où la coalition menée par l'Arabie Saoudite poursuit sa campagne aérienne contre les rebelles Houthis en appui au président yéménite Abdabour Mansour Hadi. Les précisions d'Eddie Sango.
Un des raids a fait au moins 45 morts et 65 blessés aujourd'hui dans un camp de déplacés à Adja, dans le nord-ouest du Yémen, selon l'Organisation internationale pour la migration. Des témoins ont indiqué que des ambulances ont eu des difficultés à accéder au camp à cause des bombardements sur la route. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a accusé les rebelles d'être responsables de l'attaque. Les rebelles ont continué pour leur part à bombarder la ville d'Aden, les centres économiques du Yémen, mais ont été repoussé par deux raids aériens. Le président Hadi avait demandé l'aide de l'Arabie Saoudite suite à l'impasse des pourparlers de paix avec les rebelles. Cinq jours de bombardements aériens ont contraint près de 750 familles des Sanaa à chercher refuge dans des camps des déplacés du nord du pays, selon Reuters.
Enfin, en Syrie, l'État islamique a diffusé dimanche une nouvelle vidéo montrant la décapitation de 8 hommes décrits comme des musulmans chiites. Ils auraient été exécutés dans la province syrienne de Hama, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La vidéo semble authentique. Et 6 jours après le crash de l'A320 de Germanwings dans les Alpes françaises, les enquêteurs allemands ont révélé lundi que le jeune copilote, soupçonné d'avoir délibérément fait chuter l'avion, avait suivi un traitement pour des tendances suicidaires dans le passé, mais pas au moment du drame. Aux États-Unis, une fusillade a éclaté ce matin à l'entrée du quartier général de la NSA, l'agence de sécurité nationale située près de Washington, lorsqu'une voiture a tenté de forcer une entrée, ont indiqué les médias locaux. Au moins 2 personnes ont été hospitalisées selon les médias et une personne serait morte selon MyFox DC qui dépend de la chaîne Fox News. Interrogée par l'AFP, la NSA s'est refusée à tout commentaire. Elle devait diffuser un communiqué un peu plus tard dans la journée. Outre la NSA, le site ultra sécurisé de ForMed accueille également le US Cyber Command. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 20 minutes, Le Monde Aujourd'hui présenté par Idrissa Sedoudia et Morgane Guiriec. Bon après-midi à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.